soirée qu'on a vécue avec vous, Nicolas Perronnet. Merci beaucoup. Vous nous avez fait vivre ce match PSG-Rennes qui se termine donc sur la victoire de Paris 5-0. La météo tout de suite.
France Info Météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France.
Le temps avec vous sur malongo.com. Patricia Charbonnier.
Les conditions météo seront encore très instables demain sur une bonne partie du pays avec une nouvelle dégradation pluvieuse qui va toucher une large moitié nord. Ces pluies seront soutenues en matinée entre la Normandie, l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire. Elles s'accompagneront localement de bonnes rafales de vent et le vent devrait même se renforcer dans la soirée sur la Bretagne et sur la Normandie. Il neigera encore vers 1600 mètres demain matin sur les Alpes du Nord, mais avec le redoux, la limite pluie-neige remontera au-dessus de 2000 mètres dans l'après-midi et le risque d'avalanche sera de plus en plus marqué. Les conditions météo seront nettement plus agréable dans le sud, près de la Méditerranée et près des Pyrénées, avec un ciel lumineux et des températures qui seront encore en hausse pour demain, jusqu'à 21 degrés demain après-midi à Perpignan, 16 à Paris et Nantes et 15 à Lille.
Très bonne soirée en notre compagnie sur France Info. Il est 23h01. L'heure de votre journal, Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
La France insoumise n'acceptera jamais l'entrisme religieux.
Déclaration tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes. Explication dès le début de ce journal de Marie Mollet. Le PNAT, le parquet national antiterroriste, ouvre lui une enquête préliminaire après la disparition depuis plus d'un an et demi d'un Français au Maroc. Il souhaitait ouvrir une pizzeria à Rabat avant de cesser de donner signe de vie. Enquête signée Béatrice Duguay dans le journal. Et puis crème anglaise et crumble aux pommes au menu. 4 personnes ont été arrêtées après un jet de nourriture sur la vitrine protégeant les bijoux de la couronne britannique à la Tour de Londres, annonce de la police. L'action a été revendiquée par un groupe de désobéissance civile. Nous serons sur place. Jean-Luc Mélenchon était donc auditionné cet après-midi à l'Assemblée devant la commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre les réseaux islamistes et les mouvements politiques comme le sien. Commission qui visait au départ explicitement la France insoumise, lancée à l'initiative des Républicains et de Laurent Wauquiez, lequel a brillé par son absence d'ailleurs cet après-midi. Le leader insoumis était bien là, lui, il avait laissé planer le doute sur sa venue. Il a assuré que son mouvement n'acceptera jamais l'entrisme islamiste. À l'arrivée, pas de polémique. 2 heures d'audition à l'ambiance très policée, Marie Mollet.
Oui, que d'amabilité échangée dans ces presque 2 heures d'audition entre le président LR de la commission, Xavier Breton notamment, et Jean-Luc Mélenchon.
Cette commission ne vise pas un parti en particulier. Nous ne sommes pas un tribunal, donc nous n'accusons pas telle ou telle personne. Il faut être très clair.
Ah, voilà qui est bien.
Le leader insoumis qui, au départ, entendait boycotter cette commission, il l'a rappelé, mais est finalement venu pour l'éclairer, dit-il, de ses lumières sur l'histoire de la laïcité, avant de reconnaître l'existence de la menace d'un entrisme islamiste, mais pas chez lui, à LFI. Cette commission même, dit-il, le blanchit.
Les responsables de services de renseignement du pays que vous avez entendus, j'ai lu les comptes rendus, aucun ne dit qu'il y a un lien entre nous et les islamistes. Ils disent même le contraire.
Mais sur le fond, le leader insoumis ne recule sur aucune position ou relativise la présence de certaines personnalités islamistes aux côtés d'élus LFI dans des manifestations pro-palestiniennes.
Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. De même, je me suis trouvé, moi, des fois dans des manifestations avec des uluberlus.
Jean-Luc Mélenchon, qui s'est aussi défendu de tout clientélisme, quand certains de ses adversaires lui reprochent des complaisances pour tenter de séduire un électorat musulman.
Marie Mollet. Une enquête pour homicide routier, délit de fuite, ouverte après un accident de la route à Niort, dans les Deux-Sèvres, où un motard a été tué. Une femme grièvement blessée, présente dans la voiture incriminée. Elle a été retrouvée inconsciente, mais polytraumatisée, selon la procureure de Niort. 2000 personnes, selon la gendarmerie. Ils étaient 5000, d'après les organisateurs, rassemblés depuis la nuit dernière sur un ancien site industriel de Carhaix, dans le Finistère, pour une rave party interdite par la préfecture. Cette fête a lieu chaque année en marge du Festival des Transmusicales de Rennes. Elle doit durer jusqu'à demain dimanche, théoriquement. Anne Genevard ouvre, elle, la porte à une généralisation de la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse en France. La ministre de l'Agriculture l'a dit après s'être rendue dans un élevage proche de Besançon, 5 jours après l'abattage de 83 vaches dans le Doubs, malgré la mobilisation de près de 300 agriculteurs.
Un Français porté disparu au Maroc depuis maintenant plus d'un an et demi.
Il s'appelle Clément Besnéville, il avait 29 ans au moment des faits et souhaitait ouvrir une pizzeria à Rabat, mais plus personne n'a de nouvelles de lui depuis mi-avril 2024 donc. Et on apprend aujourd'hui que le PNAT, le parquet national antiterroriste, ouvre une enquête en France sur cette affaire, Béatrice Duguay.
Le père de Clément Besnéville, Didier, y voit un moyen d'activer une entraide pénale internationale pour avoir accès au dossier de son fils.
Les gens du PNAT et donc derrière la DGSI ont d'abord des moyens d'investigation que les gendarmes ou les policiers habituels n'ont pas. Et ils ont également des canaux de communication, je dirais plus fluides, avec les autorités marocaines.
Clément a disparu le 10 avril 2024, le soir de l'Aïd el-Fitr. Didier Besnéville en est certain, parce que l'activité de son fils sur les réseaux sociaux de la famille cesse à une date précise.
L'impression que l'on a, nous, c'est qu'il est descendu de son appartement parce que quelqu'un a dû l'appeler. Il a laissé ses lunettes, il a laissé son argent, il a laissé ses papiers, il a laissé son téléphone, il a tout laissé, puis il est disparu, puis voilà.
Un de ses copains alerte les autorités marocaines 3 jours plus tard, et depuis, une enquête préliminaire est en cours. Didier Besnéville se rend régulièrement au Maroc avec son épouse. Il y est bien reçu, mais n'obtient pas d'informations.
Je suis terriblement inquiet. On en est à 600 jours d'angoisse et 600 nuits blanches. On ne sait pas, on ne comprend pas.
Un appel à témoins est lancé au Maroc, avec un numéro de téléphone et un email spécial aussi, sans piste valable pour l'instant.
Béatrice Duguay. Alors que les discussions se poursuivent en Floride, Volodymyr Zelensky annonce lui s'être entretenu par téléphone avec l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, Steve Witkoff, ainsi que le gendre du président américain, Jared Kushner, à propos du projet de proposé par Washington. Emmanuel Macron sera lui à Londres lundi. Sur le terrain, les forces russes poursuivent leur avancée sur le front et leur bombardement nocturne privant de chauffage et d'eau des milliers de foyers ukrainiens.
23h06 sur France Info, la Tour de Londres a été partiellement fermée aujourd'hui.
C'est l'un des monuments historiques les plus populaires de la capitale britannique. Il abrite entre autres les joyaux de la couronne qui ont été pris pour cible ce matin par un groupe de protestataires. Ils ont jeté de la crème anglaise et du crumble sur la vitrine de la couronne impériale portée par Charles III le jour de son couronnement. Et ce soir, 4 personnes ont été arrêtées, Emeline Vin.
4 visiteurs habillés de noir lancent une boîte de crème anglaise et un crumble sur la couronne impériale, le plus symbolique des joyaux de la Tour de Londres. En anglais, crumble désigne le gâteau mais aussi l'effritement. Alors que les vigiles appellent la sécurité, 2 jeunes personnes s'écrient.
La démocratie s'est effritée, des personnes sans abri meurent dans la rue. C'est la période la plus dangereuse de l'année pour eux et pendant ce temps, les riches amassent de l'argent, c'est écœurant.
Notre pays ne fonctionne plus, nous venons aujourd'hui pour reprendre le pouvoir.
Take Back Power, reprenons le pouvoir, est un tout nouveau groupe de désobéissance civile lancé cette semaine. Il réclame l'établissement d'une assemblée citoyenne et la taxation des plus fortunés. Mercredi, quelques membres avaient déposé des kilos de crottins devant le sapin de Noël du Ritz, un palace londonien, pour dénoncer les inégalités. Les 4 personnes interpellées ce samedi pourraient être poursuivies pour dégâts criminels et risquent l'incarcération. L'année dernière, 2 éco-activistes ont été condamnés à 20 et 24 mois de prison pour avoir jeté de la soupe de tomates sur le tableau Les Tournesols de Vincent Van Gogh.
Emeline Vin à Londres pour France Info. Et puis l'avertissement de l'AIEA ce soir en Ukraine. L'arche de la centrale de Tchernobyl a perdu ses principales fonctions de sécurité, notamment sa capacité de confinement, alerte ce soir l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un communiqué, à cause, explique-t-elle, d'une attaque de drone en février dernier attribuée à la Russie.
On en vient au foot, Emmanuel Langlois, et à cette victoire fleuve du PSG au Parc des Princes.
Victoire réduite à 10 hein, pour ce qui est des Rennais. Victoire 5-0 au final, et les Parisiens qui conservent leur 2e place au classement, Nicolas Perronnet.
Une démonstration hein, du Paris Saint-Germain, clairement, une semaine après sa défaite inquiétante à Monaco. 5 buts inscrits face à l'une des équipes pourtant très en forme de cet automne en Ligue 1. Le Stade Rennais totalement submergé par les vagues parisiennes, doublé de Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien du PSG. 3 autres buts signés Mayulu, Mbaye et Gonçalo Ramos. Le PSG ne reprend pas son fauteuil de leader après la victoire de Lens un peu plus tôt dans la journée, mais envoie un message de sérieux et d'efficacité avant de retrouver la Ligue des Champions et un déplacement à Bilbao en Espagne la semaine prochaine. Le PSG qui pointe ce soir à un point donc de Lens, le leader sur le podium, avec 4 points d'avance désormais sur l'OM, l'Olympique de Marseille, grand perdant du week-end au sommet du classement.
Nicolas Perronnet, merci, en direct du Parc des Princes. Victoire donc 2-1 pour Lens, vous le disiez, sur la pelouse de Nantes. Avec 4 points d'avance, les 100 et or sont assurés de garder la tête de la Ligue 1 tout ce week-end. Toulouse l'emporte sur sa pelouse 1-0 face à Strasbourg. Et puis les promesses de dons pour la 39e édition du Téléthon, elles approchent désormais les 69 millions d'euros, plus 4,5% par rapport à la même heure l'an dernier. L'objectif est de dépasser toujours les 96 millions d'euros collectés en 2024 avant la fin de l'événement ce soir.
Emmanuel Langlois pour ce point très complet sur l'info, 23h10.
France Info, le week-end.
Bonjour, c'est Adrien Beck. Je suis ravi de vous retrouver tous les matins, du vendredi au dimanche.
Sur tous les terrains.
Avec nos reporters.
Les décryptages de nos experts.
Le 8-30 France Info.
Les informer.
Pour tout savoir, tout comprendre, dès votre réveil.
Du vendredi au dimanche, le matin, c'est Adrien Beck sur France Info.
À demain.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Je vous donne le programme de la prochaine demi-heure, vos rendez-vous, l'info de l'histoire. L'historien de France Info va revenir sur le boycott de l'Eurovision par plusieurs pays en réaction à la participation d'Israël. Ensuite, j'ai testé pour vous. Ingrid Pohu va nous mener à un atelier culinaire et après ça, vous serez incollable sur comment on fait les sushis. Mais d'abord, les premiers extraits du livre de Nicolas Sarkozy sur les 3 semaines qu'il a passées derrière les barreaux.
France Info, 20h minuit, Marc Potvin.
De la prison donc aux librairies, Nicolas Sarkozy sort un livre mercredi pour raconter ses 3 semaines de détention après sa condamnation en première instance dans l'affaire libyenne. Le titre de cet ouvrage, c'est « Journal d'un prisonnier ». Il est publié aux éditions Fayard. Bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir à tous.
Vous êtes le chef du service politique de France Info. Vous avez pu lire ce livre, plus de 200 pages, où l'ancien chef de l'État détaille avec précision ces 3 semaines qu'il a passées à la prison de la Santé.
Oui, ce livre, c'est comme un journal de bord, le quotidien, les réflexions de Nicolas Sarkozy lors de son passage en prison. Là-bas, il était numéro d'écrou 320-535 et l'ancien président raconte par le détail sa cellule de 12 mètres carrés, son lit au matelas rigide, sa douche dont ne sort qu'un petit filet d'eau. Il parle, je cite, d'un nouvel environnement qui respire le malheur, la lourdeur, le désastre de vie brisée. Et Nicolas Sarkozy dénumérait la fouille à son arrivée, les bruits des autres détenus, les bagarres, les cris, les menaces à son encontre, ou encore ses repas dans une petite barquette en plastique dont il ne mangera que les laitages et les barres de céréales. On découvre la routine que l'ancien président a mise en place lors de son incarcération, le sport, le parloir, ses avocats, ses proches, sa sécurité en question, et on lui découvre une nouvelle proximité avec la religion. Ses rencontres avec l'aumônier de la santé ou encore ses prières à genoux dans sa cellule pour, je cite, « affronter cette injustice ». C'est donc un livre personnel, intime, qui parle aussi du monde carcéral, de la gentillesse et du respect du personnel pénitentiaire qui n'a jamais cessé de l'appeler « Monsieur le Président ».
Mais à travers ce livre, Jean-Rémy, Nicolas Sarkozy revient aussi longuement sur les raisons de son incarcération.
Oui, dans ce journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy rejoue aussi son procès. Dès les premières pages, dénonçant une douloureuse épreuve judiciaire, il l'écrit « Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire ?» Nicolas Sarkozy répète qu'il n'avait jamais imaginé connaître la prison. « Je ne suis pas un homme violent, pas un agresseur », écrit-il. Sans surprise, il dénonce longuement la partialité des juges, le travail de Mediapart. Il s'inquiète d'une guerre des pouvoirs. Cette obsession à faire de moi le coupable idéal ramenait l'état de droit en France à bien peu de choses, écrit l'ancien président. Nicolas Sarkozy, qui continue dans son livre à comparer sa condamnation à l'affaire Dreyfus, Nicolas Sarkozy le reconnaît, il n'a pas été sur l'île du diable, j'ai eu bien plus de chance que lui. Mais il a une pensée tout de même pour les autres détenus, je cite, s'entassant parfois 3 ou 4 dans le même espace que le sien. Mais ses attaques sur la justice restent avant tout sur les magistrats. « Mon crime serait-il aujourd'hui de ne pas être de gauche ?» écrit Nicolas Sarkozy. Sur les 200 pages, aucune ligne, aucune proposition sur ce qu'il faudrait changer dans les prisons.
Jean-Rémy Baudeau pour les bonnes feuilles du livre de Nicolas Sarkozy qui paraît mercredi. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicant associé au cabinet de conseil en communication NOCOM. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po Paris. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui connaît les codes de la communication sur le bout des doigts. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement, finalement, que de raconter sa détention dans un livre ?
Non, c'était important pour lui parce que ça correspond à la stratégie qui a été mise en place depuis le départ, qui était une stratégie de communication extrêmement offensive. Donc l'idée était de ne pas subir ce qui était en train de se passer, mais d'être constamment sur le filet, on pourrait dire au filet, constamment sur le créneau pour défendre la position de Nicolas Sarkozy, son image, et essayer de poursuivre le combat judiciaire par d'autres moyens, d'une certaine façon.
On se souvient d'ailleurs des vidéos sur les réseaux sociaux où on montrait tout le courrier qu'il recevait pendant sa détention à la prison de la Santé.
Oui, ce qui est incroyable dans cette séquence, c'est que c'est la première fois qu'un ancien président de la République française se retrouve en prison. Donc tout est absolument hors norme. La sécurité n'est pas prévue pour ça, évidemment. Évidemment, il va recevoir du courrier puisqu'il a déclenché une campagne assez massive de soutien. Donc il a aussi cet aspect-là à gérer, sa popularité ou du moins les gens qui lui écrivent. Et puis, c'est un prisonnier qui n'est pas comme les autres non plus parce qu'effectivement, on l'appelle Monsieur le Président au sein de la prison. Et ça permet à la fois de faire, pour lui, de montrer son point de vue, c'est-à-dire de le défendre jusqu'au bout. Et puis ça permet aussi quelque part de voir que, bah oui, la prison peut s'appliquer à tout le monde et qu'elle est dure et que c'est pas du tout, comme certains le disent, le Club Med.
Qu'est-ce qui vous frappe dans ce résumé, ce court résumé que nous a fait à l'instant Jean-Rémy Baudeau ?
Ce qui me frappe, c'est la combativité de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui continue à se battre. Il est quand même aujourd'hui, il a un certain âge, il a plus de 70 ans, il est ancien président de la République. D'une certaine façon, il n'a plus rien à prouver, mais il va continuer à se battre contre ses adversaires et pour établir une version du procès qui est la sienne. Donc c'est cette combativité que je retiens surtout et le fait qu'il ne lâche absolument rien dans ce type d'adversité.
Oui, parce qu'en fait, ce livre, à vous croire, il s'inscrit en fait dans une stratégie de communication qui doit nous mener au procès en appel du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, au printemps prochain.
Oui, c'est forcément... Aujourd'hui, les procès se déroulent... C'est pas tous les procès, évidemment, mais les procès les plus importants se déroulent autant sur le plan judiciaire que sur le plan médiatique. Et donc, à partir de là, il a besoin d'exister au niveau médiatique. Il a besoin que sa version des faits soit répétée, soit martelée. Pas forcément uniquement pour l'opinion publique, mais aussi pour mettre en place un système de défense, pour renforcer un système de défense. Et ça a un impact sur la vie judiciaire, naturellement.
Mais ce livre, il s'adresse aussi à l'opinion publique. Hein. Ce sont les Français qui seront en librairie mercredi et qui feront le choix d'acheter ou pas ce livre de Nicolas Sarkozy qui va paraître.
Oui, ça s'adresse aussi aux Français, mais la bataille judiciaire, elle est vraiment importante parce que c'est aujourd'hui, il y a même des chargés de communication spécialisés sur cet aspect-là, sur la communication judiciaire. Mmh. Donc c'est devenu vraiment très important de maîtriser son image dans un procès. Après, oui, l'opinion publique. Alors, l'opinion publique, elle reçoit des messages extrêmement difficiles depuis le début. Contre le chef de l'État. Elle est face au fait qu'un ancien président de la République va en prison. Donc, vous avez des Français qui sont majoritairement du côté de la justice, à 63% dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion. Mais vous avez également des Français que ça choque, évidemment, puisque vous avez l'autre partie de l'opinion, parce que tout simplement, ils ont du mal à digérer cette information. On est assez sidéré, en fait, devant ce qui s'est passé. Et ça s'appuie sur un moment politique, par ailleurs, qui est très polarisé. C'est-à-dire que les positions médianes, les positions intermédiaires, réfléchies, etc., c'est pas ce qu'on a majoritairement dans l'espace politique en ce moment. On n'a que des positions pour ou contre, mais radicalement pour ou radicalement contre. Donc ça met une tension dans le débat qui est incroyable. Et le fait d'avoir un ancien président, pour certains, ça va être une injustice totale. Ils vont y croire vraiment très fermement. Alors que pour d'autres, c'est au contraire absolument nécessaire dans la démocratie pour pouvoir justement avoir une démocratie qui fonctionne, que tout le monde puisse aller en prison.
Mais ce livre, Philippe Moreau-Chevrollet, ce livre de plus de 200 pages, au fond, il s'adresse déjà aux convaincus.
Alors ça s'adresse aux convaincus, oui, parce qu'il y a toute une base de fans, au fond, qui sont des fans de Nicolas Sarkozy, qui le suivent de livre en livre. Ceux qui ont envie d'entendre sa thèse aussi, qui ont envie d'entendre sa version. Ça peut s'adresser plus largement aux Français qui sont sidérés par ce moment, au fond, et par le fait qu'un président est en prison. Donc ça peut aussi leur permettre, il y a un côté un peu voyeuriste dans le fait d'acheter un livre comme celui-ci, c'est-à-dire essayer de voir ce que c'est qu'un président en prison. Et finalement, c'est un peu ce que ça nous raconte, et c'est un peu ce qui va intéresser le plus, je pense, les lecteurs. c'est imaginer un ancien président de la République se retrouver comme n'importe quel prisonnier. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut être moteur dans le fait d'acheter le livre aussi, l'effet de curiosité, si vous voulez. Regardez par le trou de la serrure de la cellule de Nicolas Sarkozy.
Et on verra effectivement si ce livre suscite l'intérêt des lecteurs. Le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy qui paraît en librairie mercredi. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet. Je rappelle que vous êtes communicant associé au cabinet de conseil en communication NOCOM, enseignant à Sciences Po.
France Info. 20h minuit.
23h20, voici l'info en une minute avec vous Emmanuel Langlois. Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées ce matin à 9 maisons, c'est près de Nancy.
Elles étaient venues rendre hommage aux 5 personnes dont 2 adolescents mortes dimanche dernier dans l'incendie criminel de leur logement. Les participants ont déposé des photos, des gerbes de fleurs et des roses blanches sur une grille qui mène à la cour de la maison où habitaient les victimes au dernier étage. La violence policière est partout, la police blesse et tue ou encore non à l'état policier à Lyon. Des slogans contre la police ont été projetés ce soir sur la façade du musée des Beaux-Arts lors de la fête des Lumières. Le syndicat Alliance Police, le maire de Lyon, Grégory Doucet, ainsi que la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes condamnent cet incident. 17 migrants, tous des hommes, retrouvés morts ce samedi après le naufrage de leur embarcation au sud de l'île de Crète. Selon une porte-parole des gardes-côtes grecs, 2 survivants dans un état critique ont été hospitalisés. Et puis la France, tenante du titre, les Pays-Bas et le Monténégro décrochent les derniers billets pour les quarts de finale du mondial féminin de handball, dont l'Espagne est une nouvelle fois absente. Les Bleus qui l'ont facilement emporté tout à l'heure contre l'Argentine, 29 à 17.
France Info.
Et on part en cuisine tout de suite parce que vous avez testé pour nous, Ingrid Pohu, un atelier culinaire.
Bon bah super, nous on va passer aux choses sérieuses. Ingrid ! Ah mais faut le mettre dans le bon sens.
J'ai testé pour vous un atelier sushi avec le chef Eric Ticana qui tient le restaurant Goma à Chessy en Seine-et-Marne. Cette année, on célèbre les 40 ans du sushi au saumon. Et oui, avant 1985, les Japonais garnissaient leurs sushis principalement avec du thon. Ce sont les Norvégiens qui leur ont suggéré de les préparer avec du saumon.
Donc est-ce que tout le monde s'est lavé les mains déjà ?
C'est fait.
On va faire ensemble des nigiri.
Les nigiri, c'est les sushis. Le riz avec l'aliment au-dessus.
Oh, ouais. Regardez bien.
On prend du riz qui est rond.
Et là, on va vraiment venir rincer le riz. On va venir en fait frotter sans venir casser les grains. J'ajoute ensuite du sucre noir d'Okinawa pour casser l'acidité du vinaigre.
Ça sent bon.
Donc là, on va être bien.
Là, on va passer au saumon.
Donc là, vous pouvez voir, on a une belle bête. Vous avez la partie du ventre, la plus grasse. On va couper des pavés.
Donc généralement, pour un nigiri, c'est la taille de 4 doigts. C'est ce qu'on dit au Japon. Et là, je vais pouvoir trancher en fait les tailles de mes nigiri. On utilise le bas de la lame et on tire le couteau jusqu'en haut pour éviter qu'il y ait des traces sur le poisson.
Quand on vous regarde, on a l'impression que c'est facile. Mais alors, quand on est tout seul dans sa planche, c'est...
Ingrid, il faut couper un peu en biais pour faire des sushis.
Comme
de
ça
bas en haut, oui. N'hésitez pas à appuyer un peu sur le couteau. Hop, vous avez vu ?
Dans un geste ferme.
Ah, c'est pas mal.
Ça va ?
Ça va, Ingrid. Vous avez un CV ?
Ouais. Ça y est, vous allez m'employer.
Et est-ce que vous savez à quelle température se mange le riz dans un nigiri ou dans un maki ?
Pourquoi 37, madame ? Vous avez la bonne réponse.
Température du corps.
Température du corps.
Ah.
Pour le nigiri, c'est assez simple. On prend une petite boulette de riz. Allez, Ingrid.
Donc, je mouille mes mains.
Exactement, bien.
Alors, je travaille sur la main droite pour le riz.
Oui, et du coup, le poisson, la main gauche. Ok, une petite boule, très bien.
Ensuite, le saumon recouvre bien le riz vinaigré.
Tout à fait.
Ah oui, j'appuie avec mon index et mon majeur dans ma main gauche pour former la forme d'un sushi.
Voilà. La forme d'un sushi.
Voilà. Ça se dégueunille un petit peu, là.
Ça se verra pas à la radio.
Et ça va, en fait. Hein. On va faire un tuto hein, sur France Info.
C'est pas mal.
Allez.
Une première.
Encore 498.
Ça se passe bien pour vous ?
C'est un carnage. Je n'ose pas montrer ça au chef.
Merci de m'avoir écouté.
Merci chef, bravo. À vous de tester. Est-ce que ça y est, on a le droit de déguster là ?
Bah, je pense. Hein.
Mais j'ai des maquis à faire moi.
J'ai testé pour vous avec Ingrid Pohu. C'est aussi sur franceinfo.fr et l'application Radio France. Voici l'info de l'histoire. Catherine Potier, vous êtes avec l'historien de France Info.
Bonsoir Fabrice Almeida.
Bonsoir Catherine.
L'historien de France Info, professeur à l'université Paris Panthéon Assas. Rien ne va plus, dites-moi, l'Eurovision, ben Fabrice. Oui. Israël a été autorisé à participer au concours, mais plusieurs pays européens ont décidé de boycotter la soirée. L'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas renoncent. C'est nouveau ça, Fabrice, ces conflits au sein de l'Eurovision ?
Ben oui, il y a une sorte de bascule depuis quelques années, parce que l'Eurovision repose sur une belle idée de coopération des radios et télévisions européennes. C'est la première grande opération menée par une vieille institution, une vieille dame, née après la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne de radio-télévision, l'UER, qui devait faciliter la diffusion des programmes en Europe. L'idée du concours est née là-bas, sur le modèle, vous savez, du festival de San Remo, qui chaque année en Italie fait s'affronter de jeunes chanteurs. Donc, lors du premier concours, seulement 7 pays étaient présents, c'était en 1956. Cela avait des allures un petit peu d'Europe des 6 modifiées avec la Suisse, puisque c'est à Lugano que se trouvait cette compétition. La gagnante vient justement de Suisse, elle s'appelait Lys Assia. Voici sa chanson refrain, un petit extrait.
Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans.
Voilà, c'est toute une époque ça. Bon, mais ensuite Fabrice, les adhésions se sont multipliées.
Ben oui, déjà lors de la 10e édition, 18 participants sont présents parce que chaque année, il y a une nouvelle nation qui adhère. Et puis, on arrive donc en 1965, il y a une personnalité qui a un nom français, France Gall, mais elle représente, tenez-vous bien, le Luxembourg. Sa chanson a été composée par Serge Gainsbourg, poupée de cire, poupée de son.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son.
Alors la ronde des adhésions, évidemment, se poursuit. Hein. Chaque année, un État supplémentaire. En 1973, tiens, puisqu'on en parle dans l'actualité, c'est l'entrée d'Israël dans le concours d'Eurovision. Écoutez Israël. Et déjà, en 1974 et 1975, ce sont les frères ennemis de Grèce et du Turquie qui entrent dans la danse. Puis en 1980, le premier pays, et le seul pays pour l'instant d'Afrique, le Maroc. 1993-1994, on s'en doute, évidemment, c'est l'entrée en masse des pays d'Europe de l'Est, dont la Russie. Et puis, il y aura en 2011 et 2018 des années records de participation avec plus de 43 pays. Bref, c'est un grand succès. Encore l'année dernière, en 2024, 37 pays avaient participé.
Bon, c'est un beau récit que vous nous racontez là, sauf qu'il y a eu quelques crises dans cette histoire.
Ben oui, évidemment, il y a eu des crises. Alors, il y a déjà eu une crise en 2005 à cause d'Israël. Le Liban s'est retiré de la compétition pour protester contre sa présence. Et puis, il y a eu des moments encore plus tendus. Pour des raisons effectivement liées à la politique internationale, en 2009, la Géorgie se retire du concours parce qu'elle refuse d'annuler et de modifier une phrase de la chanson qu'elle présentait qui disait « Nous ne voulons pas de Poutine », c'était un jeu de mots, « We don't want a Poutine », écoutez cet extrait. Bon, bref, vous avez compris, hein, tous les affrontements vont marquer la question de la participation, puisqu'en 2012, l'Arménie refuse de prendre part au concours qui a lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, à cause du conflit entre les deux États. Et puis, en 2016, c'est une disqualification un peu particulière, celle de la Roumanie, qui avait des arriérés par rapport à l'organisation. Mais surtout, on se souvient, en 2022, de l'interdiction de la Russie qui sort. Bref, il y a eu des grandes polémiques nationales dans les différents pays, mais il y a eu ces crises qui montrent que, progressivement, depuis une vingtaine d'années, il y a un phénomène de politisation des organisations internationales, d'idéologisation de ces organisations qui deviennent de plus en plus conflictuelles. Il faut espérer que cette tendance à vouloir marquer par les États leur opposition politique ne finisse pas par éteindre les plus belles voix de l'Europe.
Israël, la décision qui met le feu à l'Eurovision et divise l'Europe. L'info de l'histoire, Fabrice Dalméda, tous les samedis sur France Info et sur la plateforme franceinfo.fr.
Fabrice Dalméda et Catherine Potier, l'info de l'histoire à réécouter sur franceinfo.fr et l'application Radio France.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Quel temps pour demain, Patricia Charbonnier ?
Les conditions météo seront encore très instables demain sur une bonne partie du pays avec une nouvelle dégradation pluvieuse qui va toucher une large moitié nord. Ces pluies seront soutenues en matinée entre la Normandie, l'Île-de-France et le centre-val de Loire. Elles s'accompagneront localement de bonnes rafales de vent et le vent devrait même se renforcer dans la soirée sur la Bretagne et sur la Normandie. Il neigera encore vers 1600 mètres demain matin sur les Alpes du Nord, mais avec le redoux, la limite pluie-neige remontera au-dessus de 2000 mètres dans l'après-midi et le risque d'avalanche sera de plus en plus marqué. Les conditions météo seront nettement plus agréable dans le sud, près de la Méditerranée et près des Pyrénées, avec un ciel lumineux et des températures qui seront encore en hausse pour demain, jusqu'à 21 degrés demain après-midi à Perpignan, 16 à Paris et Nantes et 15 à Lille.
Les prévisions météo signées Patricia Charbonnier. Merci à vous de passer la soirée avec nous sur France Info, 23h30. Les toutes dernières infos avec Philippine Thibaudot.
Des ballons bleus et blancs et des gerbes de fleurs déposées devant le domicile des victimes de l'incendie criminel à Neuve-Maisons en Meurthe-et-Moselle. Une semaine après, 500 personnes se sont réunies dans les rues pour rendre hommage aux 5 personnes tuées, dont 2 adolescents. Les investigations sont toujours en cours. Les enquêteurs évoquent la piste d'une vengeance contre le seul survivant de l'incendie, un jeune homme de 22 ans, le fils aîné du couple mort dans les flammes. On parle du MeToo École, un collectif de parents d'élèves exhorte Emmanuel Macron à, je cite, « protéger les enfants ». C'est ce qu'ils disent dans une lettre ouverte publiée par la Tribune dimanche. Cela fait suite à une série de signalements d'agressions sexuelles dans des écoles, notamment à Paris. Emmanuel Macron qui a échangé avec son homologue ukrainien, redire son soutien à Volodymyr Zelensky dans les négociations pour un accord de paix en Ukraine. Le président français se rendra lundi à Londres pour le rencontrer, en vrai, ainsi qu'avec le Premier ministre britannique et le chancelier allemand. Sur le front de la guerre à Gaza, le Hamas se dit prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne, condition que l'armée israélienne cesse son occupation du territoire. Le négociateur qui acceptera alors, dit-il, le déploiement des forces de l'ONU pour surveiller les frontières et veiller au respect du cessez-le-feu à Gaza. Plus tôt dans la journée, les médiateurs qataris et égyptiens ont appelé à passer à la suite du plan de paix américain. La flamme olympique des Jeux d'hiver 2026 a entamé ce soir son périple de Rome jusqu'à Milan. Ça va durer 2 mois et 12 000 km jusqu'à la veille de la cérémonie d'ouverture prévue le 6 février prochain. En Ligue 1 de foot, le RC Lens est en tête du classement après sa victoire face à Nantes. Les Parisiens sont juste derrière à la deuxième place après avoir gagné facilement leur match face au Stade Rennais 5-0. Et puis l'équipe de France féminine de handball a validé son billet pour les quarts de finale du Mondial. Les Bleus ont d'abord dominé l'Argentine ce soir à Rotterdam 29-17 puis ont bénéficié du succès des Pays-Bas contre la Pologne. Les Français joueront leur quart mercredi prochain contre le Danemark ou la Hongrie.
Philippine Thibaudot sur France Info, 23h32. Je vous donne le programme jusqu'à minuit. Dans les prochaines minutes, le compte à rebours avant Noël, ça se bouscule dans les magasins et ça va se bousculer aussi dans les gares à mesure que le 25 approche. Nous allons voir si la SNCF et ses concurrents sont prêts. Mais d'abord, ce nouveau rendez-vous à l'agenda d'Emmanuel Macron.
France Info. 20h minuit, Marc Potvin.
Le chef de l'État qui annonce se rendre à Londres après-demain pour rencontrer le Premier ministre britannique, le chancelier allemand et surtout le président ukrainien Emmanuel Macron qui explique qu'il va faire avec eux le point sur les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine sur l'Ukraine. Nathanaël Charbonnier, vous nous avez rejoint. Chaque camp prend soin de montrer ses forces avec un objectif, maintenir la pression.
La pression la plus visible, elle est sur le terrain, tout d'abord en Ukraine, où la Russie de Vladimir Poutine frappe avec force. Les premiers mots de l'intervention d'Emmanuel Macron sur le réseau X sont là pour le rappeler. Le président français condamne avec la plus grande fermeté les frappes massives qui ont ciblé dernièrement l'Ukraine, en particulier ses infrastructures énergétiques et ferroviaires. Et on peut préciser, à titre d'exemple, que la fameuse centrale nucléaire de Zaporijjia a temporairement perdu toute alimentation électrique externe pendant et après les frappes. Pression sur le terrain et donc pression diplomatique en retour. Emmanuel Macron, toujours lui, explique qu'il faut tout faire pour contraindre la Russie à la paix et que c'est dans ce but qu'il se rendra à Londres pour y rencontrer le Premier ministre britannique ainsi que le chancelier allemand. un trio européen qui entend afficher l'union et que l'on retrouve d'ailleurs leader dans la coalition des volontaires. Ce groupe de pays réunis est prêt à œuvrer en Ukraine dès qu'un accord ou qu'une paix sera signé.
Les Européens qui affichent l'unité pour des débats et une solution qui se discute en réalité à des milliers de kilomètres de Berlin, Paris et Londres, qui doivent donc se contenter, Nathanaël, d'observer les choses de loin.
Ah tout à fait, c'est le problème des strapontins, on n'est pas bien assis. Et la photo qui sera prise lundi avec les Français, les Britanniques et les Allemands ne permettra pas forcément d'en dire beaucoup plus sur l'état des négociations. Parce que le cœur du débat, il se joue rarement en Allemagne, en Angleterre ou en France, mais plutôt à Genève, à Abu Dhabi ou Miami. C'est là que les négociateurs ukrainiens, américains ou russes négocient le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre. Les débats sont menés par l'émissaire de Donald Trump, à savoir Jared Kushner, son gendre, et Steve Witkoff, son émissaire. Ce sont eux qui donnent le « là » sous la bénédiction du président américain qui distribue bonnes et mauvaises notes. Ainsi, mercredi dernier, Donald Trump expliquait encore que les derniers échanges avec les Russes avaient été très bons et qu'il avait l'impression que Vladimir Poutine voulait la paix. On comprend mieux dans ce contexte la place peu confortable qu'occupent les Européens, mais que dire du président ukrainien qui, lui, doit composer avec ses alliés divisés et son ennemi russe.
Et dans ce contexte que vous évoquez, Nathanaël Charbonnier, les Européens ont-ils encore voix au chapitre ? Réponse de Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité, invité de France Info tout à l'heure.
Je pense qu'ils ont tout à fait leur mot à dire pour plusieurs raisons. D'abord parce que même si vous aviez un accord conclu entre la Russie et les États-Unis, qui serait en fait un accord de reddition de l'Ukraine, soyons parfaitement clairs là-dessus, eh bien, les Européens peuvent dire aux Ukrainiens, et ensemble d'ailleurs le faire, nous n'acceptons pas ce plan. Après tout, les Européens ont armé jusqu'à présent beaucoup plus l'Ukraine que les États-Unis. On sait d'ailleurs que l'aide américaine, depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche, a considérablement diminué. Et de toute manière, je crois que le rôle essentiel des Européens est d'une certaine manière de protéger l'Ukraine contre une sorte de mauvais accord dans un contexte où, on le sait, Poutine non seulement ne veut pas la paix, ne veut même pas entendre parler d'un cessez-le-feu, mais de toute manière, même s'il devait y avoir un jour, je ne sais quelle trêve, en fait, il est totalement résolu à continuer son offensive sur l'Ukraine, à la dominer complètement, à exterminer les Ukrainiens et évidemment à se retourner un jour contre l'Europe.
Mais pourquoi cette réunion est-elle organisée dès lundi ? On l'a pris cet après-midi, donc tout va très vite. En quoi elle va être différente des précédentes ? Et je pense à Paris, je pense à Rome. Il y a des objectifs concrets aujourd'hui, le soutien militaire, les garanties de sécurité aussi.
Alors, je pense que c'est d'abord dans l'immédiat la question du soutien militaire qui finalement importe le plus, parce que c'est vrai que l'Ukraine a besoin d'un soutien militaire accru des Européens, même si elle est loin d'être défaite. Hein, elle résiste quand même bien, elle marque d'ailleurs des coups en Russie, mais c'est vrai que les Européens doivent remplacer les États-Unis défaillants. Et puis, il y a un autre élément qui n'a échappé à personne, c'est le document qui a été rendu public il y a deux jours, qui est la stratégie nationale de sécurité américaine qui est extrêmement hostile à l'Europe, qui est plus qu'ambiguë à l'égard de l'OTAN et qui est quand même très clairement orientée du côté russe. Regardez même l'expression utilisée dans ce document où il parle de la guerre ukrainienne, où il n'est pas du tout question de la guerre russe contre l'Ukraine. Enfin, tout est comme ça. Donc là, je pense que les Européens, se devant une réalité effectivement qu'ils attendaient, ils ne sont pas naïfs depuis longtemps, qui n'est pas seulement le désengagement américain, mais le fait que les États-Unis ne sont plus notre allié, ne sont plus non plus l'allié véritablement de l'Ukraine. Et ça, il faut en tenir compte, et il faut en tenir compte dans des décisions militaires, bien évidemment, qui s'imposent.
Elle est aussi importante, cette réunion, qui a donc lieu lundi, ça veut dire à la veille de l'autre réunion, de l'autre tête-à-tête entre Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, qui doit rencontrer Poutine.
Oui, vous savez, ces rencontres, en fait, c'est une forme d'allégeance. C'est une allégeance au chef de la mafia, hein. Je veux dire, c'est quand même ça. Quand vous voyez, je dirais, les liens d'affaires très anciens de Witkoff avec que la Russie, quand vous voyez la manière dont il courbe les chines physiquement devant Poutine, le sourire qu'il arbore lorsqu'il le rencontre, on voit effectivement de quel côté il est. C'est surtout effectivement une sorte de pacte de corruption qu'il entend conduire avec la Russie, c'est reprendre vendre les affaires, faire en sorte qu'un certain nombre d'entreprises américaines retournent en Russie. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le document national de sécurité américain, vous avez entre les lignes exactement ce genre de considération. Donc là, on est sur un théâtre d'ombre. Alors bien sûr, le président français, comme nos alliés allemands et britanniques et les autres Européens, ne peuvent pas dire directement, en tout cas pour l'instant, à Trump, écoutez, finalement, nous nous asseyons sur ce plan qui n'a évidemment aucun sens, aucune valeur, quelle qu'elle soit, et nous allons de notre côté faire ce qu'il faut. Donc il ménage ses dirigeants européens, pour l'instant les Américains. Zelensky se plie, ainsi que ses négociateurs, à l'espèce de théâtre d'ombre sur de prétendues négociations avec la Russie qui ne mènent à rien. Et de toute manière, in fine, il n'y aura pas d'accord de quai parce que la Russie ne le veut pas et que l'Ukraine, bien évidemment, et l'Europe, d'ailleurs elle-même, verraient leur sécurité mise en danger si ce plan devait être appliqué.
Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité, auteur également de « Fin de la politique des grandes puissances », c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Et on va continuer de parler de l'Ukraine tout de suite avec Anne Souhaitemont et Catherine Potier.
France Info Monde est en Ukraine ce soir. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir.
Directrice de l'Info Internationale de Radio France. Alors cette semaine, on a encore beaucoup parlé de la visite infructueuse d'émissaires américains à Moscou. Mais au-delà des circonvolutions diplomatiques, Anne, à quoi ressemble cette guerre sur le terrain? Vous avez un documentaire à nous conseiller sur ce sujet.
Oui, un documentaire choc à 2000 mètres d'Andriivka que vous pouvez retrouver dès maintenant sur francetv.fr. La première séquence donne le ton dès les premières secondes. Un soldat ukrainien dans une tranchée, la clope au bec, le ciel est lourd, gris, un paysage de désolation, soudain le chaos. Des obus de mortier ou des tirs de drone, on ne sait pas trop, un blindé qui arrive, la mort de l'homme à la cigarette en quasi-direct et presque sans bruit, la guerre brute, sans filtre. Le réalisateur n'est autre que Mstislav Tchernov. Il a remporté l'an dernier l'Oscar du documentaire pour 20 jours à Mariupol et il représentera de nouveau l'Ukraine aux Oscars cette année.
Avec un film, Anne, qui raconte cette fois l'histoire de la reprise d'un petit village, Andriivka, près de Bakhmout.
Oui, ce film d'1h47 raconte la mission d'une unité pour reprendre un bout de terre aux Russes. Mais pour y arriver, l'unité doit passer par une bande de forêt 20 mètres de largeur, 2000 mètres de longueur. Une bande de forêt entourée par deux champs de mines, allégorie de l'horreur de la guerre. Les images des caméras GoPro embarquées se mêlent à celles tournées par le documentariste. Chronologie floue, explosion peu claire. D'où viennent-elles? Qui touchent-elles? Les hommes meurent en moins de temps qu'il ne faut pour le filmer. Ici un soldat ukrainien, à quelques mètres un soldat russe. Certains se parlent même. Rendez-vous! Ta gueule, répond la tranchée voisine. Elle est très loin, la guerre ultra-technologique.
Alors, ce film a été tourné il y a 2 ans. Est-ce qu'il évoque la situation actuelle de l'Ukraine?
Oui, et c'est sa force, Catherine. Son pessimisme, la contre-offensive de 2023, a été un échec, anticipe les difficultés ukrainiennes d'aujourd'hui. Ce que nous montre ce documentaire, des batailles coûteuses humainement, des soldats courageux, mais qui se demandent parfois le sens de ces sacrifices, eh bien, vous les avez entendus dans un reportage tourné il y a quelques jours à Pokrovsk par une reporter de Radio France. Ce que nous montre aussi ce documentaire, c'est la guerre d'images qui se joue sur le front. Régulièrement, nous vous parlons dans nos journaux de la reprise d'un village. La réalité, c'est que c'est juste le temps d'une photo. Nous avons libéré un village qui n'existe plus, conclut le cinéaste, avant de rebrousser chemin avec l'unité.
À 2000 mètres d'Andriivka, à retrouver sur francetv.fr. Regardez ce documentaire, c'est un conseil d'Anne Souhaitemont. France Info monte tous les samedis sur France Info et en podcast sur franceinfo.fr.
Et l'application Radio France aussi. Merci à vous, Catherine Potier. L'essentiel de l'actu à suivre.
Salut, petites oreilles.
Il était une fois...
Mon petit France Inter.
Découvre Mon petit France Inter, la nouvelle radio rien que pour toi.
Adieu plancher des vaches, c'est parti.
Une ribambelle d'histoire toute la journée.
C'est aussi l'histoire d'un haricot
magique. Et ta musique préférée.
Oh, laisse-moi vivre comme je...
Écoute Mon petit France Inter en direct sur l'appli Radio France et télécharge aussi tous tes podcasts préférés.
Mon petit France Inter.
C'est comme la radio des parents, mais en mieux.
France Info, reportage, partout avec vous.
Voici Judith, 15 ans, temps d'écran quotidien sur TikTok.
3 heures.
Elle ne voit pas du tout ses parents télécharger TikTok sur leur téléphone pour ensuite contrôler à distance son compte.
Ça risque pas d'arriver, je pense, ils la surveilleront jamais.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Un grand ciel bleu, les familles pique-niquent dans une bonne odeur de grillade.
Il y a des jeunes, des enfants, c'est très festif. J'oublie que c'est la guerre. Il faut profiter du moment présent, car on ne sait pas de quoi demain sera.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. France Info, 20h minuit.
23h44, l'info en une minute, c'est avec vous Philippine Thibaudot. Et Sébastien Lecornu ne présentera pas sa démission en cas de rejet du projet de budget de la Sécurité sociale.
C'est ce que rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon chez nos confrères de la Tribune dimanche, alors que le vote solennel sur le budget est attendu dans l'hémicycle mardi prochain. En Inde, au moins 23 personnes sont mortes dans l'incendie d'une boîte de nuit, un établissement très fréquenté de la station balnéaire de Goa à l'ouest du pays. Plusieurs touristes figurent parmi les victimes, indique la police. Avertissement ce soir de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'arche de Tchernobyl en Ukraine a perdu ses principales fonctions de sécurité, notamment sa capacité de confinement. Cela fait suite à l'attaque de drone en février dernier qui a touché la structure métallique qui couvre les vestiges du réacteur nucléaire numéro 4, le même qui a explosé en 1986. Et puis, plus que quelques heures avant la fin du Téléthon, il est encore temps de participer et de dépasser le record de l'an passé de 96 millions d'euros récoltés. Pour l'instant, sur le compteur, les promesses de dons dépassent les 70 millions d'euros. Un numéro pour encore le faire grimper, le 36-37.
France Info.
Noël, c'est dans moins de 3 semaines. Vous serez nombreux à prendre le train pour rejoindre vos proches. Gilles Dansard est le directeur de mobilettre.com, média d'information sur les mobilités. Et pour ce spécialiste des transports, aucun doute, la période qui vient est cruciale.
Oui, c'est une des plus importantes, tout simplement parce que les Français se déplacent beaucoup dans la famille à ce moment-là de l'année et que une grande partie d'entre eux choisissent le train, soit parce qu'ils n'ont pas de voiture ou plus de voiture, soit parce que c'est beaucoup plus pratique que de longs déplacements en voiture.
Ça veut dire que la SNCF va mettre des trains supplémentaires en service comme chaque année ?
Elle met quasiment toutes ses rames disponibles. Elle, comme les premiers opérateurs alternatifs, que sont Trenitalia ou la Renfe, en tout cas les opérateurs dont évidemment le premier d'entre eux, SNCF, fait le maximum pour répondre à une demande qui est très très forte. Elle est spécifiquement très très forte en fin d'année, mais elle est globalement sur toute l'année beaucoup plus forte qu'il y a 5 ou 10 ans. Et donc, on a des taux de remplissage, comme l'on dit, des trains qui vont vers 100% quasiment sur tous les trains qui sont mis en circulation.
Et avec quel tarif ? Est-ce que les prix flambent en cette période ?
Forcément, les trains les plus demandés, les prix se négocient de façon élevée parce que c'est comme ça que la tarification des TGV a été conçue depuis 40 ans. Et donc, oui, notamment quand on prend son billet dans les derniers jours, dans les dernières semaines, les prix ont tendance à flamber, sauf pour les détenteurs de cartes qui ont pu encore trouver des tarifs intéressants parce que plafonnés.
Bon, parlons des choses qui fâchent. Sur certaines lignes, on enregistre des travaux à répétition, ce qui entraîne des suppressions de trains en permanence. Et je pense à la ligne Paris-Toulouse, la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse en particulier. Ces travaux vont-ils être suspendus pendant la période des fêtes ?
L'offre de train a été adaptée en fonction des travaux qui se déroulent depuis plusieurs mois et qui devraient s'achever en janvier. Ces travaux entre...
C'est sûr ça ? Fin janvier, ce sera terminé ?
Oui, manifestement, les travaux se passent bien et ils devraient être terminés fin janvier. C'est une première qui se passe sur cet axe très important, pas simplement pour les voyageurs, mais aussi pour les trains de fret. C'est que les travaux ont lieu de jour pour ne pas pénaliser les centaines de trains de fret qui circulent tous les jours. Et donc, effectivement, ça a des conséquences sur les voyageurs, mais l'offre de train telle qu'elle existe sur les sites de la SNCF et autres tenait compte de ces travaux absolument exceptionels. Et donc, il n'y a pas de risque d'annulation, a priori, de trains qui ont été mis en vente sur cet axe Paris-Orléans et ensuite, effectivement, vers Limoges et Toulouse.
C'est une ligne sinistrée, faute d'investissement, cette ligne POLT. Le matériel est obsolète ?
C'est une ligne sinistrée dans sa deuxième partie, vers Limoges et ensuite sinistrée à plusieurs titres. Premièrement, l'infrastructure. Donc là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et ça va beaucoup mieux et ça va aller beaucoup mieux. Et sinistrée par la vétusté du matériel utilisé. Donc quand vous avez deux vétustés, la vétusté de l'infrastructure, la vétusté du matériel, ça évidemment, ça occasionne beaucoup de dysfonctionnements, de retards, d'annulations. Et vous ajoutez à ça qu'il n'y a pas un impact, je veux dire, un impact managérial à SNCF pour essayer de sauver un peu les meubles. Donc oui, c'est un axe qui est très difficile depuis très longtemps.
D'autres lignes sont concernées par ce vieillissement des voies et du matériel ?
À peu près toutes les lignes qui sont encore appelées lignes, les anciennes lignes de corail, c'est-à-dire ces lignes d'équilibre du territoire, que sont Paris-Clermont, que sont Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, que sont Bordeaux-Marseille, qui est une ligne extrêmement fréquentée, mais qui a des retards extrêmement importants. Donc il y a plusieurs lignes comme ça en France qui ont été négligées à la fois sur l'infrastructure et surtout sur le matériel roulant, et qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Alors il y a des promesses, hein, il y a du matériel qui a été commandé, il y a des travaux qui sont faits, qui ont été faits. Ça devrait aller mieux, mais c'est vrai qu'à un moment, l'État et qui est actionnaire de la SNCF et la SNCF, on les a un peu laissés tomber.
Et il va falloir aller vite parce qu'il y a de la concurrence quand même, et vous en parliez tout à l'heure, Gilles Dansart. On voit déjà des trains Trenitalia sur certaines lignes qui relient des villes comme Paris, Lyon, Chambéry aussi, Marseille. Et ça, c'est une concurrence qui va se renforcer dans les années à venir.
Alors la concurrence, pour l'instant, elle va plutôt sur les axes à grande vitesse qui sont les plus demandés, les plus rémunérateurs. Mais vous avez raison, peut-être que la concurrence viendra aussi sur des axes dits secondaires, qui ne sont pas à grande vitesse, hein, qui sont ceux que j'ai cités à l'instant. Et effectivement, il faut s'en occuper, sinon peut-être que d'autres opérateurs viendront. Mais surtout, c'est la demande des voyageurs très forte, hein, pour plein de raisons qui sont durables, qui sont le vieillissement de la population, qui sont le télétravail, qui sont un peu une tendance au rejet de la voiture sur la longue distance, qui sont d'autres modes de loisirs qui sont de plus en plus présents dans la société. Toutes ces raisons-là font que ces dessertes-là, qui ont été un peu négligées, qui n'étaient pas concernées par la très grande vitesse, eh bien, elles ont un vrai succès. Donc, il faut s'en occuper par respect pour ces voyageurs.
Gilles Dansart, directeur de mobilettre.com, média d'information sur les mobilités. Dans quelques minutes, on va faire un point complet sur la météo. Je peux déjà vous dire que les températures remontent. 14 degrés à Nantes, demain après-midi, 16 à Paris, 21 à Perpignan. Quelles conséquences de ce redout pour les plantes ? Catherine Potier a posé la question tout à l'heure à Alain Baraton, jardinier en chef du Grand Parc du Château de Versailles et du domaine du Trianon.
Ben, ça risque de devenir dramatique parce que les plantes sont parfaitement capables de percevoir leur environnement et les plantes s'adaptent en quelque sorte aux températures. À l'automne, les plantes se sont séparées de leur feuillage, nous l'avons tous constaté, ce qui signifie que le bourgeon, eh bien, est déjà en construction pour réapparaître l'année suivante. Et il y a au cœur de ce bourgeon ce que l'on appelle un méristème. Sans être technique, c'est un tissu végétal qui permet à la plante de grandir. Une plante grandit toujours par le bourgeon. Si ce bourgeon n'est plus à même de se protéger du froid ou qu'il est à même d'avoir trop chaud en certaines circonstances, la plante, eh bien, risque malheureusement soit de souffrir, soit de dépérir. Vous avez également le problème des arbres fruitiers, pour ne citer que les arbres les plus connus. Les arbres fruitiers ont besoin d'une période dite de vernalisation. La vernalisation, c'est le froid qui va là encore agir sur les tissus végétaux et qui favorise la fructification et la floraison. Eh bien, s'il n'y a pas de froid marqué, s'il y a des périodes alternées de froid et de chaud, la plante est en souffrance, elle ne va pas mourir bien sûr, mais elle va développer un stress et arrivent les maladies, les champignons et autres, comment dire, perturbations. Et puis je voudrais également rappeler qu'on parle toujours de la végétation liée à ces perturbations atmosphériques, n'oublions pas les insectes, tous ces insectes nuisibles pour le jardin, je pense à la mineuse des marronniers, je pense à la pyrale de buis, et du buis qui, d'ordinaire, sont détruits par le froid quand il est intense et surtout durable. À partir du moment où le froid ne dure que quelques jours et qu'il est remplacé avec des températures que vous venez de citer, eh bien tout ça, malheureusement, a de lourdes conséquences sur la nature.
Quel conseil vous pourriez donner au jardinier Alain Baraton? Est-ce qu'il faut rentrer ses lauriers roses en pot, par exemple, ou est-ce qu'on peut les laisser dehors, tout simplement?
C'est assez amusant, j'étais persuadé que vous alliez me poser la question, et je vais tout de suite vous dire, malheureuse, surtout ne le faites pas. Ce que redoute le plus une plante, c'est le choc thermique. Une plante qui a froid, elle peut se remettre. Il suffit, dès que le froid est annoncé de manière importante, on jette par-dessus une couverture, un vieux carton. Ça peut parfois suffire à isoler la plante du froid. Mais faire rentrer à l'intérieur, chauffer à 18 degrés, une plante qui était à l'extérieur, là où il gèle, c'est inexorablement condamner à mort le végétal, et que ce soit un laurier rose, un rosier ou n'importe quelle autre plante. Le choc thermique tue les végétaux, alors que le froid, quand la plante n'y est pas habituée, peut les endommager, peut les tuer, mais ce n'est pas systématique.
Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles pour renforcer la résilience des plantes face à ces aléas climatiques ?
Il y a un terme qu'on n'emploie plus beaucoup dans le domaine du végétal, et je le regrette, c'est le terme de régionalisation. Il faut déjà planter prioritairement des plantes originaires de la région où vous êtes. N'essayez pas de planter des plantes délicates dans le sud si vous êtes dans une région sèche et que la plante a besoin de beaucoup d'eau. Ne plantez pas à Lille des plantes de type de toutes celles qui, d'oranger en pleine terre. Ne mettez pas des plantes qui ont besoin de chaleur ou de douceur en hiver. Donc tenez compte des climats, tenez compte du vent, et puis rappelez-vous que la nature, souvent, quand une plante est positionnée dans des conditions confortables pour elle, est mieux à même de résister aux conditions extrêmes de froid. Donc pas de plantes frileuses là où les hivers sont terribles, hein, et puis adaptez la plante vraiment à la région. Ne l'adaptez pas, choisissez les plantes de la région.
Alain Baraton, jardinier en chef du Grand Parc du Château de Versailles et du domaine du Trianon, avec Catherine Potier dans le 17-20 de France Info tout à l'heure. Place à la musique. Et à ces chansons qui font l'actu, Bertrand Dical, vous nous parlez ce soir d'un groupe en tournée, Indochine.
Prends-moi encore une fois avec toi et garde-moi auprès de toi. La chanson En route vers le futur, parue sur le dernier album d'Indochine en septembre 2024, a l'air construite pour coller à l'histoire du groupe. Car on a l'impression, rétrospectivement, que Nicolas Sirkis et ses camarades se soucient toujours plus de s'inscrire dans le futur des musiques populaires que de défendre le bon vieux temps de leur jeunesse. Et pourtant, il y aurait de quoi. Et même tellement de tubes qu'on en oublie presque le terreau d'où surgit Indochine en 1981. Le punk rock des Clash, la révolte robotique de Divo, ces colères de la fin des années 1970 nourrissent les débuts d'Indochine et surtout cette conviction, curieusement oubliée de beaucoup de commentateurs du parcours du groupe depuis plus de 40 ans, le rock est par essence politique. Et Indochine est un groupe de rock qui creuse le même sillon avec constance, s'élever contre l'ordre établi, contre la morale oppressive, contre la violence institutionnelle dont souffre la jeunesse.
Allez, silence.
Fois, Indochine enregistre des chansons qui font danser les adolescents sans intéresser la sphère rock institutionnelle, alors qu'elles sont en avance sur de grands thèmes politiques qui vont ensuite envahir le débat public. À l'instant, l'effondrement du totalitarisme soviétique dès 1982, la question du genre dès 1985, ou maintenant la question du harcèlement scolaire dès 2013.
Qu'ici c'est dur d'être si différent pour ces gens. Quand je serai sûr de moi, un petit peu moins fragile.
Indochine tourne en ce moment dans les grandes salles de concert de toute la France, jusqu'à une série de 6 dates à l'Accor Arena de Paris en février et mars prochains. Et Indochine fait entendre par exemple la voix de Volodymyr Zelensky dans sa nouvelle chanson Victoria, l'espoir des femmes iraniennes dans le chant des cygnes, le courage de la première ministre finlandaise Sanna Marin.
Victory, the victory.
L'engagement d'Indochine n'est pas seulement politique. Si ces chansons comptent autant génération après génération, c'est aussi parce qu'elles constituent une sorte d'école parallèle qui pose ici ou là des personnalités d'artistes qui ne sont pas au programme des lycées. Voici, entre 1990 et 2017, l'écrivain J.D. Salinger, le peintre Henri Darger, la poétesse Sylvia Plath. Peut-être est-ce aussi pour cela qu'Indochine reste toujours dans l'air du temps. Des indignations, des fraternités, des colères, des espérances, des passions qui élargissent toujours la compréhension du monde en reliant chaque auditeur au chaos de son époque et au secours que lui apporte l'art. Une énorme